JMJ 2023, une émission mensuelle de la pastorale des jeunes du diocèse de Chartres. Rendez-vous à Lisbonne en 2023 pour les Journées mondiales de la jeunesse.
Esperamos por vós em Lisboa para as Jornadas Mundiais da Juventude.
À toutes et à tous et bienvenue dans cette émission JMJ, Journée mondiale de la jeunesse. Je suis en compagnie de Lucie Amiot. Bonjour Lucie.
Bonjour Émilie.
Alors tout se passe bien dans la préparation pour l'équipe des JMJ qui a fort à faire. Hein.
Oui, oui, oui. Alors on a vécu un magnifique temps le 25 mars dernier. On a accueilli une cinquantaine de jeunes pour un dîner festif autour du Portugal. Donc tout était portugais, les danses étaient portugaises, la nourriture était portugaise. Et c'était vraiment un très chouette moment convivial. Et les jeunes ont appris à se connaître à travers un escape game ici à la Visitation. Donc c'était vraiment très chouette. Et là, ça se remplit, les inscriptions, on part avec... pour l'instant, deux quarts bien remplis et certains pèlerins qui nous rejoindront directement à Lisbonne.
D'accord. Voilà. Oui, c'est vrai que pour les Français, ce n'est pas finalement si loin, Lisbonne. Donc, c'est encore oui, la possibilité de rejoindre sur place. Lucie, il n'est pas trop tard pour s'inscrire?
Ah non, il n'est jamais trop tard pour s'inscrire. On a tout le mois de mai pour le faire. Alors, on a mis une date butoir au 20 mai,
oui.
Parce que c'est important comme ça de se dire, bah, les papiers, faut que je me décide maintenant à partir, parce que nos amis portugais aussi ont besoin d'avoir des chiffres et des nombres et de savoir qui ils vont accueillir. Et donc, c'est pour ça que les inscriptions se clôturent le 20 mai.
Très bien, donc c'est pas terminé, mais il serait temps de se dépêcher si on a le projet de partir avec vous donc à Lisbonne. Alors Lucie, aujourd'hui, eh bien, tu souhaitais nous parler des célèbres apparitions de Fatima, parce qu'en fait on fête l'anniversaire des apparitions le 13 mai chaque année.
Exactement. En fait, les apparitions qui ont eu lieu à Fatima sont relativement connues, un petit peu comme les apparitions de Lourdes, et elles racontent un petit peu ce que le siècle vivait et des annonces pour les siècles à venir aussi. Donc elles ont eu un impact énorme dans la mentalité des personnes et sur les déroulements des événements historiques, notamment avec la chute de l'URSS.
Alors nous allons revenir un petit peu peut-être sur l'histoire de ces apparitions, ce qu'il s'est passé, parce que malgré tout, il y a certains de nos auditeurs qui n'ont peut-être jamais entendu parler de cet événement.
Ben oui, c'est très particulier. Des petits bergers... vraiment tout petit, hein, parce que l'aînée n'avait que 9 ans au moment des faits. Elle était accompagnée de ses deux cousins, un cousin et une cousine. Et avec les parents, c'était des enfants qui n'étaient pas lettrés, qui n'allaient pas à l'école, mais qui priaient avec leur maman, à qui on avait appris à dire les prières. La maman trouvait que c'était important de connaître l'histoire de Jésus et de l'aimer. Donc, c'est des enfants qui connaissaient la prière du chapelet.
Alors là, on retrouve, parce que tu parlais tout à l'heure des apparitions de Lourdes, là, on retrouve quand même un lien très fort avec Bernadette, puisque c'était un petit peu le même milieu.
Exactement. Des enfants qui, en fait, faisaient tout pour rendre service, mais qui étaient au service de la famille. Oui. Donc, eux, leur métier était de garder les moutons. Mmh. Et donc, de ce fait, ils allaient par tous les trois. Donc, il y avait la cousine aînée qui s'appelait Lucia, et elle avait donc son cousin Francisco et sa cousine Jacinta, qui, eux, pour le coup, étaient frères et sœurs. Et tous les trois s'en allaient de façon régulière, garder les moutons. Et au moment des pauses ou du temps du pique-nique, eh ben, en fait, ils se mettaient à l'abri, ils jouaient. Et puis la maman avait dit surtout, au moment du goûter, après le goûter, ben, vous priez le chapelet. Et donc, fièrement, ils sortaient leur chapelet de leur poche. Et surtout, comme Lucia était l'aînée, c'était elle qui leur apprenait. Alors, ils étaient tout contents, les petits, parce qu'évidemment, elle avait 9 ans et eux, ils en avaient, Francisco avait 7 ans et sa petite sœur, Francisco avait un an d'écart, donc elle avait 8 ans et la petite cousine, Jacinta, n'avait que 6 ans.
Oui, donc c'était la grande.
C'était la grande et c'était, je crois, ils étaient des enfants tout simples, tout humble.
Oui, et puis tu as raison de souligner leur jeunesse, parce que c'est vrai qu'on dit des petits bergers, mais c'est bien de rappeler leur âge. C'est vrai que quand on se figure des petits bouts de chou de 9, 8, 6 ans, voilà,
ça interpelle. Hein. Et donc, du coup, la grande avait un peu la responsabilité des deux autres, évidemment. Et leur chemin commence par une drôle de rencontre. En 1916, ils commencent déjà une rencontre un peu particulière, puisque lors de différentes occasions dans la nature, ils ont fait la rencontre avec un personnage lumineux. Mmh. Ils le décrivent comme quelqu'un de jeune, de très beau et de rayonnant. Et plusieurs fois, ils ont discuté avec cette personne-là. Avec le recul, Lucia a décrit que c'était un ange qui leur parlait et qui leur a permis de découvrir quelles étaient les prières que Jésus attendait et que Marie attendait d'eux. Mm-hmm. Alors, ils en connaissaient certaines, évidemment, les Ave, les Pater, tout ça en latin. Et là, l'ange leur a transmis une prière différente. Mm-hmm. Alors, je vais vous la citer parce qu'elle est très particulière et elle est encore souvent priés par les petits-enfants. L'ange leur disait « Mais n'ayez pas peur, je suis l'ange de la paix, priez avec moi. » Alors il s'est décrit comme l'ange de la paix et l'ange du Portugal.
D'accord.
Donc les petits-enfants se sont dit « C'est forcément un ami, donc on peut lui faire confiance. » Alors l'ange se mettait à dire « Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. » Eh bien, les enfants ont été saisis parce qu'à l'époque, ils vivaient une période de grand anticléricalisme où la foi des chrétiens était vivement remise en question. Et eux se sont dit, on va apprendre une nouvelle prière et on va la réciter. Et donc, de tout leur cœur, ils ont obéi à l'ange et ils ont rajouté cette prière dans leur quotidien et ça les a encouragés à prier d'autant plus. Puisqu'ils demandaient pardon pour ceux qui ne priaient pas, donc ils se sont dit, nous, on va prier, d'autant plus pour cela. Et l'ange leur révéla également que prier comme cela, ça permettait au cœur de Jésus et de Marie d'être ouvert à leur prière. Et du coup, ça ouvrait directement le cœur de Marie et de Jésus. Alors là, les petits-enfants, ils ont dit, on y va, on fonce, on va prier cette prière de façon régulière.
Alors ça, Lucie, pour bien resituer, c'est avant, en fait, les apparitions.
C'est avant les apparitions. Voilà. C'est surprenant. Les enfants font cette rencontre. Quelque temps après, l'ange revient. L'été de 1916, pardon, j'ai vraiment un problème. Je veux que ce soit très actuel, en fait.
C'est ça.
L'ange revient et il leur dit... que devant le refus de croire, il n'y a qu'une seule chose qui désarme, c'est le fait de poser des sacrifices, d'offrir ses souffrances. Et donc les petits-enfants se disent, quand on aura des petits soucis, des petites contrariétés, on va les offrir. Et c'est ce qui se passe. Les petites contrariétés du quotidien, quand on se dispute avec un camarade, quand maman nous gronde.
Et qui prennent de la place quand on est un enfant.
Exactement. Et du coup, tout ça, ils vont l'emmagasiner comme quelque chose de précieux, à se dire, grâce à ça, grâce à cette petite attention où je me plains pas, où je prends sur moi, mon cœur sera prêt et puis ça va ouvrir les cœurs d'autres personnes. Donc, au fur et à mesure, c'est un travail de leur cœur pour découvrir ce que Dieu attend d'eux. Et il y a eu une troisième visite au cours du mois d'octobre. Mais à chaque fois, les enfants, n'en parlent pas. D'un commun accord, ils se disent, ça va rester entre nous. C'est notre petit secret à nous. On ne sait pas pourquoi ça arrive. Oui. On rencontre ce...
Et puis, on peut aussi quand même se mettre à leur place. C'est-à-dire que quand on raconte la rencontre avec un ange lumineux, on peut s'attendre à des réactions un tout petit peu sceptique.
Exactement.
Même de la part de gens, par ailleurs, très croyants.
Hein. Exactement. Et souvent le cas, parce qu'on peut dire, mais ils sont un petit peu foufous. Alors, à l'époque, il n'y avait peut-être pas trop de drogue à distribuer. On pourrait dire, mais ils sont illuminés ou ils ont pris, ils ont pris des champignons, admettons. On ne sait pas.
Donc, ils gardent ça pour eux.
Et la dernière fois que l'ange vient, enfin, ils ne savaient pas que c'était la dernière, bien sûr, il leur offre de communier en leur proposant le corps du Christ et en leur faisant boire à la coupe du sang du Christ. Et les jeunes raconteront plus tard que, surtout Lucia, parce qu'elle a vécu assez longtemps, que dans cette apparition-là, vraiment vu le sang de Jésus. Alors que, bien sûr, quand on consacre le pain et le vin, ça reste du pain et de vin lors de l'Eucharistie. Et donc l'ange leur a dit, bah, écoutez, voilà, on chemine ensemble, je vous ai appris une prière, vous avez vu que vous pouviez offrir vos petites contrariétés pour le salut des âmes, eh bien, je vous dis aussi que c'est important de communier. Communier au corps et au sang du Christ. Et il est fait communier ce jour-là. Alors évidemment, ça reste toujours secret.
Oui.
Voilà. Donc les enfants, bon, ils se disent, bon, bah, on a vécu une expérience incroyable, ça reste entre nous, on n'en parle pas. Et le temps passe. Jusqu'à un certain 13 mai 1917.
Et alors là,
Là, une lumière réapparaît, mais c'est plus un ange. Les enfants qui sont en train de prier, juste leur chapelet en s'occupant des petits moutons, toujours, et leur apparaît encore de la lumière. Et dans cette lumière, ils ne voient pas un ange, mais une dame qui les accueille et qui leur dit « Voulez-vous vous offrir à Dieu ?» Première phrase. Bah, les petits-enfants, évidemment, ils avaient pris l'habitude avec l'ange de prier la prière, de faire des petits sacrifices et de communier, si bien que la dame, bah, ils n'ont pas pu dire, ils n'ont pas dit non, quoi. Et ils ont été inondés de la lumière de cette dame, si bien qu'ils avaient quand même pris la décision d'un commun accord de ne rien dire. Mais la petite dernière, Jacinta, qui du coup avait grandi un petit peu, bah, n'a pas pu garder ça pour elle. Et elle a avoué qu'elle avait quelque chose à l'intérieur d'elle qui l'obligeait à parler.
Ouais.
Et du coup, ça s'est su.
Alors, ce qui se passe après est assez extraordinaire. Malheureusement, on arrive un peu au terme de l'émission parce que le temps passe très vite, on n'a qu'un quart d'heure. Oui. On pourra y revenir, bien sûr, dans l'émission JMJ, mais en condensant le plus possible, est-ce que tu pourrais nous dire ce qui s'est passé ensuite ? C'est peut-être cette partie-là qui est d'ailleurs la plus connue.
Alors, la partie la plus connue, évidemment, la Sainte Vierge est apparue tous les 13 du mois pendant 6 mois. Et puis, ça a fait un petit peu boule de neige, c'est-à-dire que les gens ont dit, puisque la petite Jacinthe avait parlé, que les enfants étaient des menteurs, qu'ils racontaient n'importe quoi, mais que les enfants ne se taisaient pas, les enfants osaient dire, si bien que le 13 août, le rendez-vous prévu du 13 août, le brigadier en chef les a emprisonnés, pour être sûr qu'ils ne voient pas la Sainte Vierge, les a intimidés en disant qu'ils allaient les faire frire. Les frères retirent à l'huile.
Clairement.
Mais ils ont dit, et le petit Francisco a dit, comme ça, tant mieux, je serai plus vite au ciel. Donc la répartie était saisissante, si bien qu'ils ont été libérés le 15 août, et on les a quand même gardés 2 jours.
Ouais.
Le 19, la Sainte Vierge est apparue.
Ouais.
Et en leur disant, je vous donne rendez-vous le 13 septembre et le 13 octobre, et vous direz à tous de venir le 13 parce qu'il y aura un miracle.
Ouais.
Voilà. Et le fameux 19, en fait, comme il n'y avait pas de rendez-vous, les petits-enfants ne savaient pas, ben en fait, Lucia s'est rendue compte que la Sainte Vierge allait apparaître parce qu'au moment où elle apparaissait, à chaque fois, il y avait un changement d'atmosphère. La lumière baissait les choses se calmaient autour d'elle. Et tout d'un coup, ils se disaient, ah, il va y avoir quelque chose. Et effectivement, ils voyaient la Sainte Vierge. Voilà.
Alors Lucie, ce que je te propose peut-être, eh bien, c'est de continuer cette histoire le mois prochain. Il y aura beaucoup d'autres choses à dire, mais on aura quand même un petit temps au début de l'émission pour revenir sur ces apparitions de la Vierge. Voilà, comme ça, tous les mois de façon régulière et jusqu'à cette apothéose, ce fameux miracle. Où là, ce qui est très particulier dans l'histoire de Fatima, c'est que ce miracle, énormément de personnes en ont été témoins et on va dire la manifestation lumineuse, je ne sais pas trop comment l'appeler, a été photographiée.
Elle a été photographiée, voilà. Elle a été perçue à 40 km du lieu, par des croyants et par des non-croyants. Et le miracle incroyable, alors évidemment visuellement, on a su qu'il y a eu, ils ont vu des soleils le soleil s'embraser, devenir rouge, illuminé, bouger dans tous les sens. Mais juste avant, il y avait une pluie torrentielle où tout le monde était trempé. Où Lucia avait dit, la Sainte Vierge est là, mais elle, j'aimerais bien qu'on prie tous ensemble, s'il vous plaît, arrêtez vos parapluies, en gros. Donc vous êtes sous la pluie et vous priez, mettez-vous à genoux dans la boue et tout le monde s'est mis à genoux. Enfin, tous les croyants. Et après cette fameuse apparition, c'était comme si de rien n'était. C'est-à-dire que les personnes se sont trouvées sèches, sans rien. Mmh. Et ça, personne n'a pu l'expliquer. Voilà.
Alors, si tu en es d'accord, eh bien, nous reviendrons sur ces apparitions plus en détail pour leur faire honneur le mois prochain. Et puis, bien sûr, il y aura toutes les autres infos concernant la préparation de ces journées mondiales de la jeunesse qui approchent.
Mais oui, tout à fait. Et puis, surtout... tout le message que disent ces apparitions pour la société d'aujourd'hui. Encore. Exactement.
Jesus vive e não nos deixa sós, não mais deixarei.